Ça a marché. Voilà. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes déjà complètement perdu depuis 3 semaines ou pas. Je vais essayer quand même de rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est arrivé pour pouvoir ensuite bien avancer. Alors, ce que j'ai essayé de dire depuis 3 semaines, c'est que le culte des saints a d'abord été lié au culte des morts. Ça a été un petit peu le premier point. Au nom même de la foi en la résurrection des morts, qui n'est pas juste une question de piété, mais bien plus l'affirmation que le saint est déjà vivant. Peut-être pas, je ne sais pas s'il faut dire ressuscité, enfin, j'en sais rien, moi je ne suis pas théologien, mais qu'en tout cas, il est quand même déjà bien vivant. Donc, ça, c'était le premier aspect de la question. Le deuxième aspect, c'était un petit peu ce qu'on avait surtout déployé la semaine dernière, qu'à partir du moment où j'ai pris ce chemin-là, eh bien, je me retrouve à devoir trouver des corps de saints un peu partout. Parce que finalement, si le saint est un peu le signe que les morts ressuscitent, donc que le Christ lui-même est ressuscité, eh bien, c'est important de pouvoir retrouver en fait ces corps-là. Alors, je vous ai regardé avec vous un petit peu longuement l'invention du corps de Saint-Étienne à quelques kilomètres au sud de Jérusalem dans les années 400 et quelques. Bon, voilà. Donc ça, c'était un petit peu deuxième aspect de la question. Avec du coup, la conséquence assez inévitable, c'est qu'on assiste à partir du IVe siècle à une prolifération du corps des saints. Pas forcément parce que il y a beaucoup plus de saints, mais parce que en fait, on les cherche. Et quand on cherche quelque chose, on finit par le trouver. Ou pas, d'ailleurs, mais. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la semaine dernière, je crois que. Enfin, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que j'avais terminé en faisant remarquer que le culte des saints et donc le culte des reliques avaient entraîné un changement anthropologique majeur dans la cité antique. Et alors, qui est peut-être d'ailleurs le point de basculement de l'Antiquité au Moyen Âge, si tant est qu'il faut y trouver une idée pour ça. Donc, je rappelle parce que ça, c'est vraiment important, en fait. C'est qu'avec le culte des reliques, les morts entrent dans la cité. Et ça, c'est vraiment décisif, en fait, parce que avant l'Antiquité païenne, en fait, c'est absurde d'avoir des morts dans la cité. Le monde des morts, c'est le monde dans lequel personne n'a envie d'aller, en fait. Donc, du coup, c'est le monde qui est rejeté à l'extérieur de la cité. Alors qu'à partir du IVe siècle, Ve siècle, on voit comment les morts finissent par rentrer dans la cité des vivants. Et ça, c'est un mouvement qui existe et enfin, qui perdure en fait jusqu'à la Révolution à peu près. C'est le XVIIIe siècle qui a interrompu en grande partie ce mouvement-là. Pas complètement, mais en grande partie. Alors, du coup, lorsque les saints entrent dans la cité, je me retrouve avec cette affirmation que les morts et les vivants ont une communauté entre eux. Et donc là, peut-être que c'est juste pour essayer de redire les choses de manière anthropologique, parce que peut-être que nous, je sais pas enfin, ce qu'on en pense ou pas d'ailleurs, en fait, moi je n'en pense pas grand-chose en fait, mais de réaliser en fait ce que ça veut dire, que de mettre les morts chez soi. Et pas simplement en dehors de chez soi. Je réinsiste parce que c'est vraiment important. Les cimetières antiques sont toujours aux abords des villes. Ce qui fait que la ville, qui est un peu le lieu de la vie, ou le lieu central, est le lieu où la mort n'a pas de place. La conséquence pour la ville de Rome, c'est qu'il n'a pas le droit d'être dans le centre de la ville de Rome avec une arme. Parce que l'arme, c'est ce qui tue. Vous voyez? C'est extrêmement logique, en fait, comme système. Mais ce système-là n'est pas juste propre aux Romains. Enfin, je veux dire, c'est le système des cités grecques. Enfin, il est absolument généralisé. Alors que le christianisme, lui, bouleverse, en fait, ce système en mettant les morts à l'intérieur de la ville. Et c'est pas juste parce que les villes se sont rétrécies, mais c'est vraiment parce que on a cette conscience de la communauté des vivants et des morts. Alors, cette communauté, elle se manifeste d'abord par la communauté des saints et des vivants. Alors, si vous êtes un peu attentif au vocabulaire, en fait, c'est la même chose. Puisque dans un système où quasiment tout le monde est baptisé, pas bah, tout le monde est saint. En fait, on n'est pas, c'est pas extraordinaire comme idée, mais là. Donc, les morts finissent par rentrer à l'intérieur de la ville, et les seuls qui sont exclus sont ceux qui sont dans les fosses communes, en dehors de la ville. Donc, les condamnés, ceux qui sont considérés comme étant de toute façon en enfer, etc. Alors, les reliques des saints sont les premiers, en fait, les premières, pardon, à faire ce pas-là. Alors, je dis ça parce que, en fait, nous, reliques, on a un petit peu dématérialisé les affaires. Alors qu'en fait, il s'agit d'abord d'un morceau de cadavre. Donc, dans le sens le plus matériel du terme. Ce que ça veut dire, un mort rentre dans la ville. Communauté civique des vivants et des morts, dont l'affirmation dogmatique sous-jacente est le dogme de la communion des saints. En fait. Ça, c'est pas, en fait, juste un discours savant, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est une culture commune, qui est partagée, en fait, par tous les chrétiens du 4e jusqu'au 15e siècle, sans trop de difficultés. Dans un livre d'histoire de l'Église, on fait remarquer que le seul véritable succès de l'Église dans la haute antiquité, c'est en fait cela, le culte des reliques. Parce que c'est la seule chose qui a marché et sur un temps démesurément long, en fait. Démesurément long, puisque ça perdure alors qu'il y a bien d'autres choses qui tombent. Donc, communauté civique des vivants et des morts. Qui veut dire que les morts sont avec les vivants, mais en corrigeant un petit peu, c'est-à-dire les saints avec les vivants. Avec du coup cette idée que dans le patrimoine, il y a les saints. Ça, c'est une chose pour laquelle le monde contemporain est devenu, laquelle le monde contemporain est devenu complètement étranger. Parce qu'on n'a pas du tout l'idée que les saints fassent partie de notre patrimoine. Et on n'a pas du tout l'idée que dans un endroit local, les saints fassent partie du patrimoine local. Alors que dans la société médiévale, ça, c'est une évidence, en fait. Donc, évidence parce que, encore une fois, les saints ne sont pas séparés du monde des vivants. Ils en font partie, en fait. Voilà. Alors, ça, ce qu'essaye de dire, en fait, de manière théologique, quelque chose, en fait, qui est vécu. Alors, on peut peut-être y voir de la superstition. Je verrai ça tout à l'heure, hein, comment est-ce qu'effectivement, il y a bien des endroits où c'est possible. Mais il faut quand même pas oublier le fondement qui est extrêmement positif de l'affaire. C'est de prendre au sérieux le dogme de la communion des saints.
Je peux dire que c'est un interlude.
Prendre au sérieux le dogme de la communion des saints, ça veut dire de prendre au sérieux le fait qu'un saint est réellement vivant, en fait, et qu'il n'est pas juste un héros antique dont on fait mémoire. À vrai dire, quand j'ai accepté de faire une série sur les reliques, je n'avais pas forcément l'intention de rentrer dans ce genre de choses. Pas su... Mais en fait, ça paraît, quand on y réfléchit, ça paraît assez évident, en fait. Alors que nous avons une manière de culte des saints qui est d'abord un acte de mémoire et qui est pas du tout, enfin, me semble-t-il, en tout cas qui est pas beaucoup, la conscience de cette communauté partagée. À la fois parce que nous avons tellement conscience que le saint c'est du passé et nous avons tellement conscience que nous ne sommes pas saints puisque nous doutons profondément de la réalité des sacrements, eh bien du coup, on a perdu en fait cette communauté. Alors, au contraire, lorsque les reliques rentrent dans les murailles des villes au 5e siècle, on affirme cela. Alors, je vous avais raconté un petit peu, du coup, les translations de ces reliques, et je voudrais poursuivre maintenant avec les différentes pratiques, en fait. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ça marche, cette affaire? Je vais commencer par peut-être le plus théologique, et après, on ira vers le moins théologique, ou en tout cas, ce qui va le plus loin. Le premier élément fondamental, c'est que les reliques des saints, et c'était, rappelez-vous, ce n'était pas le cas au début, mais les reliques des saints sont placées dans les autels. Sont placées dans les autels à tel point que l'on n'imagine plus d'avoir un autel sans reliques de saints. Ça se met en place assez vite. Hein. Je veux dire, 5e siècle, c'est à peu près en place, hein, cette affaire. Alors, quel est l'enjeu? Parce que ça, c'est quand même une question un peu perturbante, en fait. Finalement, si on dit pourquoi est-ce que dans les autels, il y a des reliques de saints? Et c'est encore le cas aujourd'hui, en tout cas pour la catégorie des autels dits fixes. Les hôtels mobiles, non, mais les hôtels fixes ont des reliques. Alors, je ne sais pas si le général soulève la nappe d'hôtel. Dans l'Occident actuel, ça se passe souvent sous la forme d'un plateau, en fait, qui est mis dans l'hôtel, sur la partie supérieure, mais parfois ça peut être complètement autre chose. Il arrive que les reliques dans les hôtels, ça soit sur la face, qu'il soit du côté du peuple, vous ayez une espèce de trou dans lequel vous mettez les reliques. Dans certains cas, ça peut être mis carrément sous l'autel, c'est-à-dire qu'il faudrait démolir l'autel pour voir les reliques. Alors, tout ça a exactement le même sens. Fondement scripturaire, parce que dans l'Église médiévale, on ne fait rien qui n'est pas un fondement scripturaire. Parfois, on fait d'autres choses, mais voilà. C'est Apocalypse 6, verset 9. Ce qu'on lit dans l'Apocalypse 6, verset 9, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour le nom. C'est simple, hein? Alors, je vous rappelle, on est dans l'Apocalypse 6, on est dans la grande vision de l'agneau immolé par le voyant Jean de Patmos. Et donc, lui, il voit un autel sur lequel il y a au-dessus un agneau immolé qui est le Christ. Bon, vous connaissez peut-être tous les grands tableaux de peinture qui représentent cela. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais en dessous, donc sous cet autel, il y a les âmes de ceux qui ont été égorgés pour le nom. Ça s'appelle les martyrs. Ceux qui ont donné leur vie pour le nom du Christ, on appelle ça un martyr. Et donc, au nom de cette vision, dans l'Apocalypse 6, verset 9, eh bien, on décide de mettre les reliques dans les autels. C'est normal, parce que ça sert à quoi un autel? Un autel, ça sert à faire venir le Christ. Ça sert à célébrer l'Eucharistie, rien d'autre. Ça veut donc du coup dire que, voilà, ça, c'est un peu des problèmes de sacramentaire, mais vous voyez, quand on tourne entre plusieurs images, en fait, le pain et l'agneau. Ce qui me pose des problèmes de dictionnaire absolument incroyables, parce que je commence par dire que je prends du pain et je finis par dire voici l'agneau. Ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y songe. Bon. Mais le fondement, c'est ça. C'est que du coup, sur l'autel, j'ai l'agneau de Dieu immolé. Et du coup, qu'est-ce que j'ai en dessous? Les saints. Alors, le fondement scripturaire, a priori, a quand même été trouvé après coup, de manière à justifier une pratique existante. Mais en revanche, il y a un vrai fondement ecclésiologique à cette affaire. Donc, l'idée, c'est que les martyrs, je commence par les martyrs parce que c'est le plus facile, en fait. Après, ça s'étend de manière beaucoup plus vaste. Les martyrs, par leur mort violente pour le nom du Christ, sont associés à la passion du Christ. Je crois que ça, c'est assez évident. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent. Ils sont associés à la passion du Christ, non pas parce que non pas, je vais répondre à la question juste après, non pas parce que sont associés à la passion du Christ, non pas en raison d'une vertu de la douleur, mais en raison de la foi en la résurrection. Je rappelle le fondement du martyr. C'est au nom de notre foi en la résurrection que nous sommes mis à mort. Donc, je suis uni à la passion du Christ en vue de la résurrection. Mais du coup, de manière logique, les martyrs sont associés au mémorial de la passion et de la résurrection. C'est logique, en fait. Parce que comme ils l'ont vécu, ils peuvent y être associés. Alors, ça, c'est une question de liturgie, mais c'est exactement ce qui se passe à la messe, hein, quand on fait la mémoire des saints à la messe. Parfois, il y a des listes qui n'en finissent plus, mais peu importe, en fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on a le dogme de la communion des saints. C'est que les saints qui sont associés à ce mémorial entraînent avec eux les fidèles actuels. Entraînent avec eux les fidèles actuels. Ça veut dire que du coup, les reliques des saints qui sont placées dans les autels sont un peu, si vous voulez, la manifestation un peu sensible du dogme de l'intercession des saints. Toujours au nom de cette communauté des vivants et des morts. De communauté, des vivants sur cette terre et des vivants au ciel. Ça, c'est un point, en fait, assez important, hein, parce que quand nous nous parlons de l'Église, alors je dis ça comme ça, je ne vous connais pas assez en fait pour savoir si c'est vrai votre cas personnellement ou pas, mais souvent, quand on parle de l'Église, on pense exclusivement à l'Église actuelle. Et on oublie qu'en fait, l'Église, c'est un peuple mystique qui a un passé et un avenir. Mais comme ce peuple est vivant, ceux du passé ne sont pas morts. Vous voyez ? Donc du coup, le fait de mettre les reliques des saints dans un autel, c'est une manière d'associer les saints du passé à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça le truc important. Parce que quelque part, les saints du passé, on n'en a rien à faire. Le problème, c'est aujourd'hui. Fait un aparté, mais vous voyez, c'est exactement le même principe que lorsque un bonhomme se fait représenter sur un tableau qui représente l'Annonciation. Vous avez ça dans des tas d'endroits, vous voyez l'Annonciation, la Vierge Marie, l'ange Gabriel, et qu'est-ce que vous avez? Dans un petit coin du tableau, vous avez un bonhomme et toute sa famille. Et parfois, on dit, ah, il est tellement orgueilleux qu'il veut se mettre sur le tableau. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il a, il veut se rendre présent à l'Annonciation. Oui, il a une très forte conscience de ce que l'événement représenté sur le tableau qui est 2000 ans, 1000 ans avant lui, doit lui être contemporain. Ben, c'est exactement le même principe pour les reliques mises dans les autels. C'est que la passion des martyrs anciens doit être contemporaine, en fait. Alors après, ça, vous l'étendez à tous les saints, donc y compris les non-martyrs. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle dans toutes les histoires de saints, on vous explique qu'ils ont beaucoup souffert à un moment ou à un autre. Par exemple, pour les histoires des saints religieux ou des saintes religieuses, ils ont toujours souffert de la part de leurs supérieurs. Ça ne manque pas, en fait. Et ça, c'est la manière de s'associer à la passion du Christ. Alors, une question. L'autel est à la fois l'autel du sacrifice et la table du repas partagé. Bah oui, exactement, mais tout à fait. C'est exactement ça. Et il faut tenir les deux dimensions. C'est-à-dire que, et ça, vous le voyez avec les saints également. Parce que le saint est sacrifié. Alors, en offrant sa vie en sacrifice saint spirituel, comme le dit saint Paul. Et dans le même temps, si j'ai une vraie communauté ecclésiale avec les saints, qui du coup, par définition, sont morts, eh bien, je suis aussi sur la table du repas partagé. Vous voyez, enfin, je ne sais pas, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Alors ça, c'était, disons, l'affaire la plus théologique. Ça, c'était juste pour s'épuiser dès le début. Et maintenant, peut-être revenir à des questions un peu plus simples, mais qui sont quand même au fondement du culte des reliques. Donc, première manière d'avoir le culte des reliques, c'est tout simplement de célébrer la messe dessus. C'est pas rien quand même, en fait. Après, il y a autre chose qui se passe. Alors, je vais leur dire d'abord de manière théologique pour qu'on puisse ensuite éventuellement en trouver quelques exemples. Mais en fait, les exemples, vous les connaissez. C'est pas forcément le plus amusant. Donc, le fondement, si vous avez bien compris, c'est que le corps des saints est un corps ressuscité. Parce que si le saint est saint, ça veut dire que son corps est déjà, alors, peut-être, je sais pas s'il faut dire ressuscité, mais en tout cas, il est quand même déjà bien plus avancé que le nôtre. Au minimum, il faudrait dire qu'il est rempli de puissance divine. Ça, c'est le fondement. Du coup, si je mets une relique de saint chez moi, dans ma ville, dans mon église, eh ben, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que j'ai la puissance divine qui arrive chez moi ou dans mon église. C'est ça le fondement, en fait. Alors, dit autrement, ça veut dire que le ciel s'ouvre et descend sur la terre. Une manière de dire qu'il y a communication entre le ciel et la terre. Eh bien, à partir de là, vous comprenez où je veux en venir. C'est que si les reliques ont cette puissance divine, parce que c'est le corps de saint, c'est quand même ça le fondement important. Eh bien, du coup, les reliques peuvent avoir une vertu de protection. Ou une vertu de guérison. Ce qu'on attend en quelque sorte de Dieu de manière générale. Alors, je reprends parce que je ne suis pas sûr d'être très clair ce soir, en fait. Le corps des saints est un corps divinisé parce que le saint est déjà arrivé au bout. Et puisque le corps est divinisé au nom même de la foi en la résurrection des morts, eh bien ce corps est efficace autour de lui, ou est puissant autour de lui. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué, mais du coup, quand je dis ça, je suis obligé d'introduire des éléments. Le premier élément, on l'avait déjà. Parce que quelque part, si je célèbre l'Eucharistie sur des reliques, je me mets dans la perspective de viser le ciel. Je vous ai dit que le but des saints, c'était de nous entraîner. Donc ça, c'est en quelque sorte, je vise la vie éternelle, mais enfin, c'est quand même le sens de la vie spirituelle. Si je dis que le saint, lui, est puissant de la puissance de Dieu parmi nous, j'introduis une dimension temporelle. Une dimension terrestre. Dont la marque, ça sera par exemple, eh bien, d'avoir un saint qui me protège de la famine. Ou bien, si j'habite à Montpellier, un saint Roch qui me protège des épidémies, puisque toutes les épidémies arrivent par la Méditerranée. Ou bien, si je travaille dans les mines, d'avoir Sainte Barbe qui me protège des accidents de la mine. Et ça s'appelle ça des questions très temporelles ou très terrestres, puisque ce n'est pas d'abord la vie éternelle qui est en jeu, mais c'est d'abord le fruit temporel ou terrestre que je pourrais en avoir. Alors, petite remarque là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur de ce mélange. Parce qu'en fait, si on lit correctement le Nouveau Testament est rempli de ce mélange-là. Vous voyez, nous, parfois, on spiritualise un peu en disant, voilà, Jésus, il est là pour conduire à la foi en lui. C'est vrai, mais enfin, n'empêche qu'il passe son temps à guérir des gens. Et quand il les guérit, il ne se préoccupe pas forcément de savoir quel est leur désir de la vie éternelle. Il les guérit d'abord. Vous voyez? Du coup, ça. Bon, je prends cet exemple-là, mais ça vaut aussi de la nourriture. Ça vaut aussi de l'apaisement de la tempête. Alors après, on peut tout mettre au niveau symbolique. Mais enfin, si la totalité de l'évangile devient symbolique, il y a un moment où ça devient un peu embêtant qu'on n'ait plus l'élément littéral présent, en fait. C'est pour ça que je dis ça. C'est que la question temporelle, il ne faut pas complètement l'écarter, en fait. Sinon, ça veut dire que ma vie spirituelle devient complètement désincarnée. Alors, ça veut dire que, enfin, faut tenir les deux, en fait. Quelqu'un qui ne recourt au saint ou à Dieu que pour l'amélioration de sa vie terrestre, bien évidemment, c'est insuffisant. Mais quelqu'un qui oublie que Dieu peut intervenir dans sa vie terrestre, eh ben, a oublié quand même quelque chose de fondamentalement important dans le rapport de Dieu aux hommes. Du coup, voilà. Alors, les saints deviennent, à partir de là, le protecteur. Alors, avec deux formes de protection. Il y a la protection générale, locale, si vous voulez, sous azimut. Et puis, il y a la protection spécialisée. Je commence par la protection locale, parce qu'en fait, c'est celle-là qui s'est d'abord mise en place. Donc, la protection locale, c'est-à-dire que le saint devient le saint patron d'une cité, en fait. Le saint devient le saint patron, c'est-à-dire le protecteur du lieu. Patron dans le sens antique du terme. Vous savez ce que c'est qu'un patron? Enfin, c'est pas celui qui nous donne des ordres, mais le patron, c'est d'abord celui qui me permet d'exister, en fait. C'est celui qui me permet d'être ce que je suis. Et peut-être même de prospérer. C'est ça le patron, en fait. Peut-être que ça serait bien de se rappeler cela en morale sociale de l'Église. Alors, le saint protecteur. Alors, ça, on en a des milliers, en fait. Hein. Mais alors, je vous en donne un exemple pour vous voir, pour que vous voyez un peu comment ça marche. Je veux dire, c'est pas juste une question d'odeur. Je suis désolé, c'est un exemple ultra local, c'est à côté de chez moi, mais enfin, c'est comme ça, c'est pas très grave. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu le nom de Saint-Cloud. Je l'écris parce que moi, je ne sais pas parler anglais, mais voyez-vous, Saint-Cloud, c'est aussi un diocèse en Amérique. Et lorsque je vivais à Rome, il y avait un séminariste qui venait de ce diocèse-là et qui était un petit peu étonné du nom de son diocèse parce que, me disait, mais enfin, c'est quand même pas possible qu'un diocèse porte le nom de Saint-Nuage. Donc, il a fallu que je lui explique que, ben non, que Saint-Cloud avait vraiment existé. Et vous savez quel était le nom antique de Saint-Cloud? Enfin, antique. Le nom au 5e siècle de Saint-Cloud? Eh bien, c'était tout simplement Nogent-sur-Seine. Parce que Nogent, c'est quoi? Alors, vous savez, des Nogent, il y en a partout en France. C'est normal. Nogent, ça veut dire camp de peuplement des gens qui viennent d'arriver. Donc, si je traduis en français contemporain, j'appelle ça camp d'étrangers. Nogent, novus, ça veut dire les nouvelles personnes, le nouveau peuple. Donc, tous les Nogent qui sont en France, c'est comme ça. Donc, Nogent-sur-Seine, bah oui, parce que c'est un petit village au bord de la Seine qui est donc porte le nom de Nogent, puisque c'est une ville nouvelle habitée par des gens étrangers qui sont les Francs. Comment on passe de Nogent à Saint-Cloud? Bah, uniquement par Saint-Cloud. Alors, Saint-Cloud, bon, pour bien distinguer, en fait, s'appelle Clodoald. Clodoald, c'est le petit-fils de Clovis. C'est quand même pas complètement un inconnu, hein. Petit-fils de Clovis qui manque d'être assassiné, comme tous ses frères, par ses oncles, qui échappe à l'assassinat et qui rentre au monastère. On ne sait pas très très bien qu'est-ce qui est cause de quoi, mais ce n'est pas grave. Rentre au monastère et finit par fonder un monastère à Nogent-sur-Seine, là où il y avait des Francs établis. Et là, il devient saint. Et du coup, à sa mort, je ne sais pas exactement combien de temps après, on lui donne le nom, on donne au nom de Nogent-sur-Seine le nom du saint qui y a habité, c'est-à-dire Saint-Cloud. D'accord? Et donc, c'est comme ça que Saint-Clodoald devient le saint protecteur du lieu qu'est Saint-Cloud. Tout simplement. Et ça, des histoires comme ça, vous en avez, mais alors vraiment des dizaines et des dizaines en Occident. Je peux vous en donner un autre, hein, si vous voulez, Saint-Denis. Ben, c'est pareil, Saint-Denis. Saint-Denis, c'est l'invention du tombeau de Saint-Denis par Sainte-Geneviève. Saint-Denis prend le nom, devient, la ville prend le nom de Saint-Denis parce que Saint-Denis est le protecteur ou le saint patron de la cité. Ah, ça, c'est fort, hein, parce que ça veut du coup dire que dans le vocabulaire, surtout si j'ai vraiment conscience de cela, je ne peux plus parler de la ville sans invoquer le saint patron, tout simplement. Puisque je n'ai pas d'autre nom pour le dire. Donc ça, c'est le saint patron. Alors, après, évidemment, vous vous retrouvez avec des saints patrons un peu partout. Alors, comment on va trouver le saint patron? Soit on prend le saint patron d'un saint local, je vous en donne un parmi d'autres. Vous aurez à Brioude, à Saint-Julien. À Vienne, Saint-Féréol. À Toulouse, Saint-Cernin. Saint-Cernin. Enfin, tout ça, c'est les saints locaux, en fait. Vous voyez comprendre, et qui deviennent le saint patron. Parce qu'on a la très forte conscience que le saint qui a vécu à tel endroit va jouer le rôle de protecteur de la ville. Mais faites bien attention, parce que ça, c'est quelque chose qui existe au 5e, 6e, 7e, 8e siècle. C'est quelque chose qui disparaît ensuite. Et je n'ai pas l'explication pourquoi ça a disparu. Je vous donne quelques témoignages du fait que ça disparaît. Premier témoignage, lorsque à Rome vivent je ne sais combien de saints dans le même quartier, bizarrement, le quartier n'a pas pris le nom des saints. Alors que logiquement, il aurait dû. Je pense au quartier du Panthéon, où dans un mouchoir de poche ont vécu Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint Louis de Gonzague, et un siècle avant, Sainte Catherine de Sienne. Deuxième exemple, alors ça c'est un peu plus tordu comme exemple, mais c'est pas grave. Lorsque Les Germains s'étendent vers l'Est. Non, je suis désolé, j'ai une passion pour le monde germanique, mais lorsque les Germains s'étendent vers l'Est, ils ne donnent pas au lieu qu'ils fondent des noms de ça. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, vous avez des tas de villages, vous avez toujours 10 villages qui portent le même nom. Donc voilà, je n'ai pas l'explication de du fait que ce phénomène cesse, mais en tout cas, au début, on fait vraiment cela dans la forte conscience que le saint local est devenu le saint protecteur de la cité. Ah, mais alors si je n'ai pas de saint protecteur, s'il n'y a pas eu de saint sur place, comment je fais ? Ben, je vais en chercher un autre, tout simplement. En chercher un autre, ça veut dire faire venir des reliques de saints pour avoir mon saint patron. Et c'est comme ça que vous avez tous ces villages qui s'appellent Saint-Martin en France. Alors, si je suis un petit peu prétentieux, je ne vais pas me contenter quand même d'un petit Saint-Martin. Je vais chercher un patronage bien plus important. Par exemple, la Vierge Marie. Alors, je n'oserais pas appeler le village Notre-Dame. Par contre, il y aura une église Notre-Dame et je vais me débrouiller pour récupérer des reliques de la Vierge Marie. Et vous avez Chartres. Avec le manteau de la Vierge. Voyez ? Si je suis quelqu'un de très important, une ville très importante, je ne vais quand même pas me contenter d'un saint patron. Donc j'aurai un saint patron principal et des saints patrons secondaires. Et du coup, je multiplie les reliques. Ça, c'est quelque chose qui, bon, je ne donne pas d'exemple concret, mais qui, dans les villes médiévales, est un signe assez fort. Et ça, c'est vrai jusqu'à la Révolution. Pourquoi est-ce que l'on multiplie les églises et les titulatures des églises dans les villes médiévales ? C'est pour avoir une litanie des saints dans la géographie. Je vous donnerai cet exemple-là encore en Allemagne, peu importe. Le jour où j'ai visité la ville de Cologne, j'ai été extrêmement impressionné. Parce qu'à Cologne, vous savez, Cologne a été entièrement détruite en 1945, comme beaucoup de villes allemandes. Mais ce que ont fait les Allemands quand ils restaurent, c'est toujours assez étonnant, mais ce qu'ils ont fait, c'est que à chaque fois que vous êtes quelque part dans la ville, vous avez une image de comment c'était avant. Et vous vous rendez compte que Cologne, c'est la ville, eh bien, aux 1000 églises. Une concentration d'églises dans cette ville qui est absolument fascinante. Si vous vous rappelez que chaque église a des reliques de saints, vous vous retrouvez avec une litanie des saints qui est absolument phénoménale. C'est-à-dire, sur un même carrefour, il y avait 4 églises à chaque angle, avec une titulature différente. Donc, le patronage, d'abord, local, de cette manière-là. Mais qui est quelque chose qui est quand même vraiment vécu. Hein. Pour les Parisiens, savent peut-être à quel point Sainte-Geneviève a marqué quand même la ville de Paris. Mais en termes d'une protection quand même extrêmement concrète. Double protection, sauver la ville de la famine. Alors, c'est peut-être le génie d'une femme d'entreprise qui est capable d'organiser tout un circuit pour faire venir du pain depuis, du blé depuis la Champagne. Enfin bon. Et puis aussi, arrêter l'invasion des Huns. Tout ça, c'est la protection locale. Après, vous avez une deuxième forme de protection qui est la protection spécialisée. Quand on dit que le saint patron est protecteur de ceci ou de cela. Alors, en fait, c'est anthropologiquement assez logique, en fait. Je ne sais pas si, d'un point de vue chrétien, c'est très régulier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'anthropologiquement, quand je commence à avoir plein de saints et que je me dis qu'il va me protéger, moi, la question bête que je pose, il va me protéger de quoi ? Et il suffit qu'il y ait un miracle, par exemple, de saint Roch qui un jour fait un miracle contre la malade de la peste pour que je décrète que Saint-Roch soit le spécialiste des pestiférés. Vous voyez ? Il suffit que tel saint ait été un jour efficace contre un incendie pour que je décrète qu'il soit le saint spécialiste des incendies. Il suffit que telle sainte, parce qu'en général, c'est des saintes, ait un jour été spécialiste en cas de stérilité pour que je décrète qu'elle soit la spécialiste de la stérilité. Je me retrouve du coup à avoir des saints qui deviennent un peu comme des médecins spécialistes. Vous voyez, je vais voir le gastro-entérologue, je vais voir le cardiologue, et bien selon mon problème, je vais aller voir tel, tel ou tel saint. Alors je répète, anthropologiquement, c'est parfaitement logique. Enfin, en tout cas, je trouve ça logique. J'espère que vous le trouviez avec moi, mais là, parce qu'en fait, c'est assez naturel. Vous voyez, en disant on raconte cette histoire, et ben donc forcément, lui, ça va être pareil. En revanche, je répète, d'un point de vue chrétien, je ne suis pas sûr que ce genre d'opération soit extrêmement légitime. Parce que au nom de quoi est-ce que le saint serait un peu le spécialiste de ceci ou de cela? J'en sais rien, en fait. Mais bon. Alors, une fois que j'ai ce système-là, eh bien, le principal lieu du culte des reliques, ça va être le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est-à-dire que je vais me rendre quelque part pour aller visiter les reliques, les vénérer comme le lieu de la présence de Dieu quelque part. Pour en retirer un bénéfice spirituel. Alors, qui peut être temporel, au sens, par exemple, je vais faire un pèlerinage parce que mon couple n'est pas fécond et que je voudrais vraiment tomber enceinte, et bien, du coup, je vais là-bas. Ou bien, ça peut être un pèlerinage de conversion, en disant, j'ai tel péché que je n'arrive pas à me défaire, donc je vais faire un pèlerinage pour demander au saint de me débarrasser de mon problème. Ou bien encore, je ne suis pas sûr de mon salut, et donc je vais faire un pèlerinage sur les reliques d'un saint pour en retirer un bénéfice spirituel. Je doute, par exemple, de telle vérité de la foi, eh bien, je vais faire un pèlerinage pour m'aider à faire cela. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on pratique encore largement aujourd'hui. Hein. Le pèlerinage de Lourdes n'est pas très différent de cela. Hein. J'y viens pour me faire guérir, j'y viens pour me réconcilier, j'y viens pour renforcer ma foi. Donc, le pèlerinage. Le deuxième phénomène, c'est que si le saint est un saint patron ou un saint protecteur, quand il y a un problème un peu sérieux, là, je suis un peu étonné que personne n'ait pensé à faire ça, parce que finalement, depuis 2 ans, on vit dans des problèmes un peu sérieux, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut sortir les reliques et les promener. Mais pourquoi faire ça? Je crois pas que ce soit de la superstition, ça, c'est ancré dans la foi que la relique est le lieu de la puissance de Dieu. Donc, si Dieu est puissant dans la relique et que je promène ma relique quelque part, eh bien, ça va être puissant là où la relique se sera promenée. Et c'est comme ça que vous avez toutes les grandes processions qui s'organisent, qui se mettent en place, alors, à partir du 6e, 7e siècle. Alors, je voudrais quand même insister sur un petit point qui est la prolifération des reliques. Parce que quand même, est-ce que vous voyez quel est l'intérêt d'avoir des tout petits morceaux de reliques plutôt qu'un corps entier? Parce qu'en fait, si j'ai juste un petit bout d'ongle, enfin, je vais pouvoir partager mes reliques de manière monstrueuse. Donc, il va pouvoir y en avoir partout. Or, n'oubliez jamais une chose. L'Église médiévale lit énormément l'ecclésiologie et l'Eucharistie. Elle lit énormément l'ecclésiologie et l'Eucharistie. Et quel est le dogme de l'Eucharistie? C'est de dire que dans la moindre parcelle d'hostie consacrée, Jésus est pleinement présent. Dans la moindre parcelle d'hostie consacrée, Jésus est pleinement présent. Raison pour laquelle je dis toujours aux séminaristes que s'ils veulent être très soigneux de la moindre parcelle du corps du Christ comme hosties consacrées, ils doivent être soigneux de la moindre parcelle du corps ecclésial, c'est-à-dire du moindre des fidèles. Puisque ça va ensemble, en fait. Eh bien, l'ecclésiologie, si vous avez bien compris ce que je vous dis, qu'elle n'est pas juste horizontale, mais qu'elle est vraiment verticale aussi. Ça veut donc dire que la moindre parcelle du corps d'un saint sera elle-même complètement remplie de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, ça ne se coupe pas en morceaux. Donc, j'ai aucun intérêt à avoir le corps entier, en fait. Avoir un petit bout de l'ongle, ça marche aussi. Et c'est comme ça que du coup, je peux commencer à multiplier les reliques. Alors, comment ça marche, cette multiplication des reliques? Est-ce que je vous ai dit qu'il existait trois types de reliques dans la classification? Non? Alors, je vais le dire maintenant. Parce que c'est le moment de le dire avant, ça n'avait aucune importance. Première catégorie, les morceaux du corps. Je répondrai à tout à l'heure. Première relique, les morceaux du corps. Ça, c'est le summum du summum. Si vous avez un morceau du corps, c'est vraiment parfait. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui est ressuscité. C'est pas, le reste, ce n'est pas très important, en fait. Donc ça, c'est la première catégorie. Mais ce qui se fait encore, je veux dire, lorsque Jean-Paul II a été canonisé, eh bien, il y a eu un bureau à Rome qui a été ouvert pour les gens qui voulaient avoir des reliques de Jean-Paul II. On continue à faire ce qui se fait depuis 15 siècles. Deuxième catégorie, les objets ayant appartenu au saint. Par exemple, le manteau de la Vierge Marie, le bâton de Saint Jean-Baptiste. Si tout cela vous paraît pas trop extraordinaire, eh ben, vous vous contenterez de la pantoufle de Saint Pie V. À Rome, un séminaire, nous possédons la pantoufle de Saint Pie V. Enfin, une, j'imagine qu'il en avait plusieurs. Mais voilà, là, c'est une relique de catégorie 2. Mais voyez qu'au moment où de foi, nous, on l'a mis dans un musée. On l'a pas mise dans l'église, alors qu'on devrait peut-être. Alors, n'importe quel objet ayant appartenu à ça. Alors, vous comprenez bien que si c'est un objet qu'il n'a pas beaucoup utilisé, c'est moins important que si c'est un objet qu'il a beaucoup utilisé. Alors, comment ça marche, ce système? Là, ben, c'est l'idée du contact. Alors ça, c'est très lié à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la sainteté se communique par contact. Donc, si le saint a un corps saint, ce qui est la définition d'un saint, ça veut dire que tout ce qu'il a touché est saint. Par contact. Alors, ne me posez pas la question stupide, qu'est-ce qui se passe si jamais, après qu'un saint a touché quelque chose, il y a quelqu'un de très très mauvais qui a touché le même objet? Je n'en sais rien, parce que ça, c'est un problème de l'association, de la comparaison entre la sainteté et l'absence de sainteté. Mais entre parenthèses, ça, c'est le problème de l'Ancien Testament. Troisième catégorie, un peu plus éloignée, c'est là que je peux la fabriquer. C'est la relique par contact. Le petit mouchoir qui touche le corps du saint. Par contact. Donc, ça vaut encore moins. Puisque ça a touché pendant un petit moment, mais ça n'a pas appartenu au saint. Voilà. Alors, ça, vous avez le droit de dire là, oui, bon, quand même, là, c'est quand même un peu fort votre affaire. Oui, peut-être. Sens où c'est là où on s'éloigne énormément de la doctrine de la résurrection des corps. Vous voyez, où c'est là où la frontière entre l'objet magique et la foi en la résurrection est quand même assez fine. Il faut en avoir conscience. Hein. Mais je ne vous ai pas mis les textes, mais en fait, la conscience, elle existe depuis le début. Hein. Jean Cassien, à Marseille. L'abbaye Saint-Victor de Marseille, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais les saints n'ont en eux-mêmes aucun pouvoir de miracle. Cinquième siècle. Donc, en fait, quand vous avez des écrits comme ça, ça vous dit, on lutte quand même contre un mouvement dont on sent bien qu'il est un petit peu désordonné. Mais je répète, pour faire toucher mon morceau de flanelle deux morceaux de flanelle le corps de qui vous voulez, bon, probablement que la frontière avec l'objet magique n'est pas très très loin, très très lointaine. Et parfois, peut-être que c'est la marque d'une certaine foi. Mais bon. Alors, le fait de promener les reliques pourrait-il être rapproché de la sortie de l'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament? Enfin, il me semble, mais je puis me tromper, que l'Arche d'Alliance ne sort pas beaucoup quand même. Hein. Au sens où on ne la promène pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que le jour où on a promené... Parce que l'Arche d'Alliance, c'est quand même pour le coup véritablement la présence de Dieu. Lorsque David n'ose pas, au début, ramener l'Arche d'Alliance complètement à Jérusalem, et il la pose dans un coin chez un étranger. Et ça se passe tellement bien pour l'étranger que David dit, oh, quand même, si ça fait du bien chez lui, ça ne peut pas me faire de mal. Ça serait plutôt dans ce principe-là. C'est plutôt l'idée de dire que partout où Dieu passe, ça fait du bien, en fait. Mais c'est la même raison pour laquelle Jésus se promène autant. Hein. Jésus n'attend pas qu'on aille le voir. Alors, sur la fabrication des reliques, forcément, si je vais en pèlerinage, eh ben, c'est peut-être intéressant d'arriver à remporter des reliques chez moi. Alors, vous allez dire, mais comment on fait? Ben, c'est pas très difficile, en fait. Alors, si je suis un petit peu humble, je peux me contenter de toucher tout mon mouchoir. Morceau de corps sain. Ceci dit, il y a d'autres pratiques bien plus amusantes. Je vous en donne quelques-unes. Est-ce que vous savez comment les clés de Saint-Pierre se sont à ce point multipliées? Alors ça, c'est Grégoire de Tours qui le raconte. Donc, si Grégoire de Tours le raconte, c'est que c'est vrai. Hein, il ne raconte pas n'importe quoi. Eh bien, c'est très simple. C'est quoi les clés de Saint-Pierre? Celle qu'on... Alors, nous, on a l'imaginaire, voilà, la clé qui ouvre les portes du paradis, etc. OK, ça, c'est Matthieu 16, 16, je suis d'accord. Mais très concrètement, le tombeau de Saint-Pierre est fermé à clé pour empêcher qu'on vole les reliques de Pierre à Rome. D'accord? Eh bien, pour avoir des reliques, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Je fabrique un double de la clé du tombeau. D'accord? Je fais l'échange. C'est-à-dire, je prends la clé qui est sur le tombeau, je mets la mienne, mon double à la place. Du coup, moi, je repars chez moi avec une relique, puisque la clé a touché le corps de Saint-Pierre. D'accord? Et dans le même temps, moi, j'en ai fabriqué une nouvelle. C'est-à-dire que le bonhomme qui viendra après moi, il pourra à son tour fabriquer un double de la clé des clés de Saint-Pierre et faire la même opération d'échange. D'accord? Eh bien, si je commence à faire ça, vous comprenez que le commerce devient très facile. Je ne sais pas s'il y avait un bonhomme qui a, quelque part, ouvert une boutique de vente de double des clés du tombeau de Saint-Pierre, mais en fait, c'est extrêmement logique. Enfin, vous savez, mais moi qui suis très mauvais commerçant, c'est la première idée qui me viendrait à l'esprit. Si je n'ai pas de travail à Saint-Pierre et que les gens viennent à Rome, pardon, et que les gens viennent et que c'est un truc qu'on fait, bah, il suffit d'ouvrir une échoppe qui vend les doubles des clés. Mais vraiment sur ce principe-là, c'est-à-dire je vends le double et tu expliques l'affaire, tu vas mettre la clé à la place, tu récupères l'ancienne et comme ça, on se retrouve avec la prolifération des clés de Saint-Pierre. Bonne manière de fabriquer des reliques. Autre manière, communément admise, le vol. Alors, le vol, faites attention, on ne va pas voler quelque chose de complet, parce que les reliques, quand même, c'est assez fascinant. Ça, pour moi, ça va mettre au crédit de cette communauté des vivants et des morts. C'est que les reliques se promènent, en fait, beaucoup. Et pas juste en procession, c'est qu'on les déménage. Alors, puisque je suis parti dans le vol, est-ce que vous savez pourquoi on raconte qu'il y a un doigt, une phalange, très exactement, de Saint-Nicolas à côté de Nancy? Bah justement, d'ailleurs, dans une ville qui a pris le nom. C'est exactement le même principe, à savoir que, en fait, le village d'origine, je vous l'écris, mais ça, c'est les origines lorraines, je suis désolé, c'est Varangéville, ceux qui connaissent bien la Lorraine. À côté de Varangéville, à 3 ou 4 kilomètres, non, peut-être moins d'ailleurs, 2 kilomètres, il y a une ville, aujourd'hui, on appelle Saint-Nicolas-de-Port. Bon, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un port qui est. Alors, je ne me rappelle jamais si c'est sur la Meurthe ou si c'est sur la Moselle, mais enfin, peu importe. La Saint-Nicolas-de-Port. Je me retrouve avec le Seigneur d'Arangéville. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur d'Arangéville? Eh bien, le Seigneur d'Arangéville, en 1095, vous donne son prénom, il s'appelait Aubert, est parti en pèlerinage. Bon, enfin, il n'est pas allé très loin. Enfin, ça dépend, hein, à l'échelle. Quand vous partez en 1095, le but de votre pèlerinage, c'est la Terre Sainte. Hein. Ben, lui, il ne va pas jusqu'en Terre Sainte. Il s'arrête en Italie. Plus exactement au port. Paris. Et le port de départ vers la Terre Sainte. Alors, à Paris, qu'est-ce qu'on trouve? Un corps complet de Saint-Nicolas de Smyrne. Au XIe siècle, plus personne ne sait qui est Saint-Nicolas de Smyrne, puisqu'on en a mélangé deux. Au sens, Smyrne, comme vous savez, c'est en Turquie. Bon, je vous expliquerai après qu'est-ce que fait Saint-Nicolas de Smyrne en Italie plus tard. Ça, c'est un autre problème. Mais, bon, des Saint-Nicolas, il y en a plusieurs. Parce qu'on dit aussi que c'est Saint-Nicolas de Myre, c'est le même. Les traditions de diverses histoires de Saint-Nicolas ont été rassemblées. Et toujours est-il qu'il y a donc un corps saint à Paris, dont on dit qu'il s'agit de Saint-Nicolas, qui aurait été un évêque martyr du IIe siècle après Jésus-Christ. Lorsque le chevalier Aubert de Varengéville arrive à Paris, il voit la dévotion des foules devant le corps de Saint-Nicolas. Et du coup, il se dit, si cette dévotion est importante, il faut que moi, j'en rapporte un souvenir. Mais pas plus, c'est plus qu'un souvenir, justement. C'est pas une photo, en fait. Mais un élément qui me permettra d'avoir chez moi la même dévotion. Eh bien, il coupe une phalange et la remporte dans ses bagages. Qu'il installe dans une église qu'il construit exprès à cet effet, la basilique Saint-Nicolas de Port. Et ce qui est extraordinaire, c'est le succès que ça a eu, en fait. Parce qu'en soi, une histoire comme ça, c'est une histoire banale. En fait, je veux dire, il y en a des dizaines comme ça. Mais là, ce que je ne m'explique pas, c'est le succès que ça a eu lieu. Parce que comme les Lorrains et les Alsaciens le savent parfaitement, le rôle de Saint-Nicolas, ces régions-là, et même qui continue en plus sur très très loin à l'est. À tel point, alors ça c'est pour le coup encore bien étonnant, que Saint-Nicolas devient le patron des navigateurs, alors que c'est un évêque martyr. Pourquoi? Parce que son corps est dans une ville portuaire d'Italie et que Saint-Nicolas de Port, comme son nom l'indique, est une ville portuaire. Et c'est comme ça que dans tout le monde germanique, Saint-Nicolas est le patron des bateliers, donc des négociants, puisque c'est la même chose, donc des pirates, puisque ça aussi c'est la même chose. Bon, je vous mets ces exemples-là, mais enfin, je pourrais en avoir des milliers d'autres. Ce que fait le Seigneur de Varengéville, un exemple parmi d'autres, c'est qu'il nous montre que posséder une relique, c'est la garantie d'un bien à la fois spirituel et temporel. Spirituel, parce que ne doutez pas de la foi de ces gens-là, hein. Ils visent la vie éternelle, mais en même temps temporel, en disant ça fait pas de mal. Alors, on a eu à la messe de samedi matin cette affaire-là, la demande de Salomon. Dieu dit à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon répond, oh, j'ai un peuple très compliqué à gouverner, alors donne-moi la sagesse. Et qu'est-ce que répond Dieu? Puisque tu vas demander cela, je vais te donner en plus la richesse. Ben c'est le même principe, en fait, ici. J'ai foi en la vie éternelle, je fais venir une relique au nom de cette foi-là, et dans le même temps, j'espère bien en récupérer quelque chose en espèces sonnantes et trébuchantes, en tout cas dans ma vie concrète. D'accord? Du coup, je vais pouvoir mettre des reliques de saints dans des endroits où les saints n'ont jamais habité. Et c'est comme ça que vous avez, encore une fois, cette prolifération. Et qu'est-ce qu'on fait pour montrer que c'est important? Eh bien, on invente. C'est une vraie invention l'époque médiévale, qu'on appelle des statues reliquaires. Ceux qui ont été à Sainte-Foy-de-Conques ont vu la statue reliquaire, parce que c'est l'exemple le plus abouti qu'on en ait. Mais il y en a d'autres. Parce que vous voyez, si j'ai ramené une phalange, on va prendre la phalange, si j'ai ramené une phalange, bon, franchement, comment est-ce que je vais pouvoir la mettre en valeur, ma phalange? Si je la range dans un coffre, on ne la verra pas, on ne saura pas ce que c'est. Alors que si je construis une statue en forme de phalange, tout le monde verra qu'il s'agit d'une phalange. Vous voyez? Si je construis une statue en forme de bras, donc tout le monde verra que je possède le bras de machin, de tel saint, etc., etc. Alors, lorsque je me retrouve à avoir un saint patron protecteur de la cité qui va me faire du bien en me donnant tout ce que je veux, qu'en plus est bien en place le système où je peux déménager les reliques dans un sens ou dans l'autre. J'espère que vous comprenez assez vite que la relique devient un objet précieux. Pas uniquement en raison de l'or qu'il y a autour, mais précieux en elle-même. C'est exactement comme pour l'ostensoir. Hein. L'or de l'ostensoir sert uniquement à valoriser ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, l'or du reliquaire sert uniquement à montrer que ce qu'il y a à l'intérieur est important, parce que, je répète, voir un petit morceau de linge souillé, on a plus envie de le mettre à la poubelle qu'autre chose. Alors que si je montre dans un reliquaire, vous verrez que c'est un petit peu différent. Si ça devient un objet précieux, et que, en plus, je répète, cet objet précieux, il est tellement précieux que ce n'est pas juste précieux au nom de sa valeur marchande, mais c'est précieux parce que c'est lui qui me protège, patron de ma ville, etc., etc., eh bien, ça veut dire que lorsque je suis menacé de manière grave, il faut absolument que je sauvegarde mes reliques. Vous voyez, pas juste que je fasse une procession pour obtenir une résolution de mon malheur, mais que je sauvegarde mes reliques. Eh bien, ça, nous en avons plein d'exemples au 8e siècle, au moment de l'invasion des Normands. Si jamais il y a des Normands qui s'offusqueraient de ce que je parle de l'invasion des Normands, je peux aussi dire l'invasion des Vikings, c'est pareil. L'invasion des Suédois, tout ça, c'est pareil. Parce que vous voyez, la grande invasion du 8e siècle, c'est ça. En tout cas pour la France. La Gaule. On ne mesure pas, enfin, on mesure difficilement ce que sont les invasions des Vikings. Ce sont des razzias qui remontent les fleuves, qui vont à l'intérieur des terres et qui repartent dans l'autre sens. Or, c'est là que l'on assiste à des translations de reliques absolument incroyables, mais qui n'ont pas pour but d'amener le bien spirituel ou temporel quelque part, qui ont pour but de protéger un objet devenu sacré. Un peu comme si je dois fuir, peut-être pas dans la précipitation, eh bien, je vais emporter mon or, mes bijoux, etc. Tout ce que j'ai de plus précieux. Alors, l'exemple le plus spectaculaire que nous ayons en la matière, mais je répète, c'est pas du tout le seul, c'est la translation des reliques de Saint Philibert, Noirmoutier. Noirmoutier, c'est une île de l'Atlantique. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, les reliques de Saint Philibert sont en Bourgogne, à Autun. Et ce, depuis le 8e siècle. Eh bien, en fait, c'est exactement à cause de cela. Parce que lorsque les Vikings commencent par arriver, en fait, les habitants de Noirmoutier commencent par avoir peur pour les reliques de Saint Philibert, qui est le saint patron local. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour protéger le saint patron local, on va décider de le translater, de le déménager, pour le sauver lui. Alors, ça, vous voyez, ça devient assez étrange, hein, parce que tout à l'heure, je vous expliquais que les reliques, c'était quand même ce qui nous sauvait, etc. Et voilà, tout à l'heure, maintenant, ça devient l'objet à protéger. Alors, les reliques de Saint-Philibert de Noirmoutier, quand elles sont déménagées, eh bien, on peut suivre à la trace l'invasion viking, parce qu'on ne les amène pas d'abord directement à Autun, à quelque chose comme 600 km de là. Surtout qu'il y a le Morvan à traverser quand même. Ah non, les reliques de Noirmoutier, on le fait remonter la Loire. C'est logique. De Noirmoutier, on les amène à Nantes. De Nantes, on les amène à Orléans. À Nevers. Et à chaque fois, les Vikings vont de plus en plus loin. Et du coup, les reliques de Saint-Philibert, on les emmène encore de plus en plus loin. Et quand on fait ça, c'est parce qu'on espère qu'elles vont revenir un jour. Vous voyez, c'est de se dire, je les mets temporairement quelque part pour ensuite, quand le danger viking sera terminé, je redéménage dans l'autre sens et je ramène mes reliques au bon endroit. Sauf que ça n'a jamais eu lieu. Parce que les invasions vikings ont duré tellement longtemps et ont été tellement dures que les générations ont fini par oublier cela, de ramener à la maison les reliques. Alors ça, c'est assez bien documenté. Parce que la translation des reliques, ça ne se fait pas dans une valise. Ça se fait avec procession, avec un peu de décorum, même si on est un peu pressé. C'est pas la fuite précipitée, si vous voulez. C'est juste de dire, le malheur est tel qu'on n'arrivera pas à s'en sortir, donc du coup, on va se protéger. Ces choses-là, en fait, on en a plein. Mais là, vous voyez que... Ça veut dire que du coup, une fois que l'on a ça, vous comprenez que ça soit parfois un petit peu difficile de suivre à la trace toutes les reliques. Parce que s'il y a des gens qui transportent dans tous les sens, que je profite en plus du transport pour découper, et bien pouvoir dire très précisément, le corps est là, il est parti là, il est allé là-bas, ça devient sérieusement compliqué. Surtout que si je cache quelque chose pendant des siècles, comment je fais pour redécouvrir ensuite? Mais vous savez, c'est pas juste un problème médiéval, hein. Ce problème-là, c'est retrouvé à la Révolution française. Où il y a bien des choses qui ont été cachées pendant la Révolution française et qu'on n'a pas redécouvertes après parce qu'on ne savait plus où elles étaient cachées. Si vous voulez un exemple encore plus récent, lorsque les Allemands, en 1944-45, à la veille d'être envahis par les Russes, sachant qu'ils allaient être envahis par les Russes, ont caché tout un tas de trucs, et qu'ensuite ils ont tous été tués, on n'a pas retrouvé la moitié des choses. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on retrouve des choses dans des endroits complètement insoupçonnés. Vous voyez, c'est exactement le même principe, en fait. Du coup, si je veux sauvegarder quelque chose et que je le cache trop bien, eh bien, je ne sais plus où j'en suis. Alors, je vais en venir à quelques textes pour introduire deux choses. Le dernier aspect de ces transports de reliques dans tous les sens, c'est la collection de reliques. Alors, je vous ai montré les choses à l'échelle de la ville. Je vous ai montré le seigneur de Varangéville à l'échelle d'un homme. Mais il y a des choses qui existent. C'est de se constituer un trésor spirituel. Je vous avais parlé déjà, je sais, de la Schatzkammer à Vienne, qui est le mouvement des souverains, mais tous les souverains occidentaux font cela. Ce n'est pas du tout un propre Habsbourg. Tous font cela. Se constituer des trésors sacrés. Mais pourquoi? Parce que la relique, dans ce cas-là, devient l'objet important. Alors, est-ce que vous avez vu comment, du coup, j'ai avancé? J'ai commencé par une relique qui était témoignage de la résurrection des morts. Je suis arrivé péniblement à une relique qui est mon saint patron et qui me protège. Et maintenant, je suis dans quelque chose qui est un petit peu différent, qui est une relique qui devient un objet précieux, sacré. Objet. Mais objet, quand même, deux fois. Il ne faut pas non plus exagérer. Enfin, c'est-à-dire que ça reste quand même une relique. Mais objet d'abord. C'est-à-dire que je n'en attends pas d'abord la protection, mais je me constitue un trésor parce que ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas simplement les richesses matérielles, ce sont aussi les richesses spirituelles. D'accord ? Alors pour cela, je vous propose de lire le texte 7. Donc on est passé en plein XIIIe siècle, avec une histoire assez extraordinaire. Enfin, c'est un texte fou celui-là. Le texte de Rabban Mar Soma. Rabban Mar Soma, c'est qui ? Eh bien, c'est un moine mongol. Catholique. Qui va en voyage à Paris en 1287. Donc, il fait un grand voyage. Il sort de son monastère. On a le texte est entièrement édité en français. C'est assez fascinant, en fait, cette affaire, parce qu'il raconte tout ce qu'il fait. Et il part de chez lui. Alors, quand je dis qu'il est mongol, c'est-à-dire qu'il est objectivement dans les territoires possédés par Jean Giscan au XIIIe siècle. Donc, dans l'Afghanistan actuel. Et de là, il part en Iran, en Terre Sainte, en Italie et en France. Et alors, en plus, il raconte ce qu'il fait. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un document absolument extraordinaire. Vous avez en plus quelqu'un qui est un petit peu extérieur à cela. Maintenant, par contre, c'est un chrétien. Attention. Donc, comme c'est un chrétien, il partage cette culture. Et alors, je voudrais qu'on lise un petit peu. Donc, on est en 1287 sous le règne de Philippe le Bel. Rabban Soma dit au roi Philippe le Bel, « Maintenant que nous avons vu la gloire de votre royauté et que nous avons considéré de nos yeux la merveille de votre puissance, nous vous prions d'ordonner aux habitants de la ville de nous faire voir les églises, les châsses et les reliques des saints, et tout ce qu'il y a chez vous qui ne se trouve point ailleurs, afin que quand nous retournerons, nous puissions raconter et faire connaître dans notre pays ce que nous aurons vu chez vous. » Le roi ordonna à ses émirs, ça, c'est, comme il ne sait pas ce que c'est qu'un ministre, pour lui, hein, les ministres de Philippe le Bel sont des émirs, « Allez, faites-leur voir tout ce qu'il y a de remarquable chez nous. Ensuite, je leur montrerai moi-même ce que j'ai près de moi. » Donc, on est à Paris, et ce moine veut voir pas seulement la gloire temporelle qu'il a déjà vue, mais veut voir les églises, mais pas juste les églises comme bâtiments, mais les églises avec les châsses et les reliques des saints. Donc il veut voir ça. Voir tout ce qu'il y a chez vous qui ne se trouve point ailleurs. Donc ça ne l'intéresse pas de voir les choses qu'il a déjà vues, mais il veut voir, par exemple, les reliques des saints exceptionnelles, propres à Paris. Par exemple, Sainte-Geneviève, qui ne se trouve pas ailleurs. Donc les émirs sortirent donc avec eux. Ils restèrent un mois et quelques jours dans cette grande ville de Paris et virent tout ce qu'elle renfermait. Il y a 30 000 écoliers qui étudiaient les sciences ecclésiastiques et profanes, c'est-à-dire l'interprétation et l'explication de tous les livres saints, la sagesse, c'est-à-dire la philosophie et la rhétorique avec la médecine, la géométrie, l'arithmétique et la science des planètes et des étoiles. Ils sont constamment occupés à écrire et tous reçoivent du roi la nourriture. Bon, témoignage exceptionnel sur ce que c'est que l'université de la Sorbonne au XIIIe siècle. 30 000 écoliers payés par le roi pour étudier. J'aimerais bien que ça existe encore, ça. Ils virent aussi, dans une grande église qui se trouve là, les cercueils des rois défunts. Ah, vous avez compris, la basilique Saint-Denis. Et leurs images en or et en argent placées sur leurs tombeaux. Il y a pour le service funèbre de ces rois 500 moines qui mangent et boivent aux frais du roi. Ils persévèrent dans le jeûne et la prière sur les tombeaux de ces rois. Les couronnes de ces princes, les armes et leurs vêtements sont placés sur leurs tombeaux. En un mot, tout ce qu'il y a de grandiose et de remarquable, ils le virent. Alors, vous voyez là le mélange. On va voir les reliques, on va voir les églises, et puis on va voir en même temps la nécropole royale, qui n'a rien à voir en fait avec ça, qui est en quelque sorte le lieu de prière pour les souverains rois. Après cela, c'est là le point important, le roi lui-même les fit appeler. Ils se rendirent donc près de lui à l'église Ils le virent qui se tenait du côté de l'Orient et ils le saluèrent. Le roi demanda à Rabban-Soma, « Avez-vous vu tout ce qu'il y a chez nous? Ne vous reste-t-il plus rien à voir ?» Rabban-Soma rendit grâce, donc la visite touristique a été exhaustive. Et aussitôt, il monta avec le roi vers un tabernacle d'or que le roi ouvrit. Il en tira un reliquaire de cristal dans lequel se trouvait la couronne d'épines que les Juifs placèrent sur la tête de notre Seigneur lorsqu'ils le crucifièrent. La couronne se voit à l'intérieur du reliquaire sans que celui-ci soit ouvert grâce à la transparence du cristal. Il y avait aussi dedans une partie du bois de la croix. Le roi leur dit, quand nos ancêtres ont pris Constantinople et ont pillé Jérusalem, ils en ont rapporté ces objets de bénédiction. Alors là, vous avez compris, Philippe le Bel montre donc à Rabban-Mor, comme sommet de la visite, ce qu'il a de plus précieux. Et qu'est-ce qu'il a de plus précieux? La couronne d'épines. Et vous avez vu qu'il ne montre pas la couronne d'épines pour que ce moine vénère la couronne d'épines. Il montre la couronne d'épines comme sommet de son trésor sacré. C'est subtil, mais c'est un peu différent quand même. Alors, dans le dialogue entre Rabban, Soma et Philippe le Bel, il y a quelques petits éléments importants. Premier élément important. Philippe le Bel dit, quand nos ancêtres ont pris Constantinople et pillé Jérusalem, alors moi c'est assez honnête hein, sur ce qui s'est passé. Ils en ont rapporté ces objets de bénédiction. Alors, c'est oublié peut-être que la pèlerinage de Terre Sainte, qui est la croisade, a aussi eu pour but de sauvegarder les lieux saints. Et sauvegarder les lieux saints, ça veut aussi dire sauvegarder les reliques saintes. Et quelque part, l'histoire de la couronne d'épines, c'est aussi un peu cette histoire-là. Donc en fait, c'est mélangé. C'est à la fois, je ramène la couronne d'épines chez moi pour être sûr qu'elle ne soit pas détruite par les musulmans, puis dans le même temps, je suis quand même bien content de l'avoir amenée chez moi. Ou si je peux le dire autrement, je suis bien content que ce ne soit pas le roi d'Angleterre qui l'ait récupérée, que ce ne soit pas l'empereur de Saint-Empire qui l'ait récupérée, mais que ce soit moi. Alors, pour la couronne d'épines, on est à peu près sûr du transfert. Après, je ne vous dirai pas si c'est la couronne d'épines, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que l'arrivée en France est à peu près claire. Mais alors, voyez, quand vous êtes au niveau du sanctuaire, vous êtes de la relique exceptionnelle, et bien alors là, c'est beaucoup moins clair. C'est beaucoup moins clair, l'arrivée. Il y a 2 siècles et demi de silence. Alors, je ne sais pas, si c'était moi qui avais récupéré le sanctuaire, j'en étais sûr, je l'aurais publié à tout le monde. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour douter du sanctuaire, mais c'est pour vous dire que, bon, le problème, c'est que on est dans un mélange de dévotion réelle, de mise en valeur de soi réelle, vous voyez, j'ai un trésor précieux, et en même temps de j'ai un truc que je veux pas montrer. Parce que j'ai trop peur qu'on me le vole. Et si les ducs de Chambéry avaient dit immédiatement « on a le Saint-Suaire », vous imaginez combien de gens auraient voulu le récupérer. Bon, quand on s'appelle Saint-Louis, c'est un peu plus difficile. Voilà. Bon. Mais c'est un mélange, parce que la réalité humaine, elle est mélangée. Et du coup, la réalité spirituelle autour des collections de reliques, elle est également mélangée. Avec en plus cette espèce de course, je reviens au texte dans 2 minutes, mais de course pour avoir le maximum de course oui, mais on peut l'avoir acheté, je n'ai pas dit qu'il l'avait volé, mais je peux l'avoir acheté à un prix très élevé. Le but, c'est à la fois le prix que j'y accorde et que j'apporte à cela, et en même temps à la fois de sauver un objet et de manifester que c'est moi qui l'ai. Je vous dis ça parce que le point de vue n'est pas très différent de lorsque le Qatar achète le musée du Louvre, ce dont à peu près tout le monde se désintéresse. Puisque aujourd'hui, on prétend que les œuvres restent au Louvre, puisque au Qatar, ils n'ont pas les moyens de les sauvegarder, mais le jour où ils auront les moyens de les sauvegarder, ils les aménageront. C'est exactement le même principe, en fait. C'est j'achète quelque chose qui me paraît vraiment important. Alors, pour quel motif la couronne d'épines est vraiment importante? Parce que c'est un objet sacré. Pourquoi est-ce que je ne le montre pas? Parce que le musée n'existe pas. Et puis, le trésor, ce n'est pas fait pour être montré à tout le monde. Donc, le moine mongol est très honoré de voir la couronne d'épines. Et en même temps, qu'est-ce que dit Philippe le Bel? Objet de bénédiction. Donc, si je le rapporte chez moi, c'est quand même que j'espère en avoir une bénédiction. Sinon, c'est pas la peine. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'a fait du coup Saint-Louis? Eh bien, c'est très bien écrit. Il nous a constitué un reliquaire transparent permettant de voir la couronne d'épines sans avoir besoin d'ouvrir la boîte. Parce que normalement, les reliques, ce sont des boîtes. Donc, il faut ouvrir la boîte. Mais oui, mais c'est trop dangereux d'ouvrir la boîte. Donc, on préfère montrer les choses de cette manière-là. Trésor sacré. Mais encore une fois, il y en a plein d'autres. Et alors, l'inflation va être telle qu'on va chercher à avoir le truc le plus extraordinaire, le plus inouï qui soit. Et c'est comme ça qu'à Rome, on vous montre l'escalier de Ponce Pilate. La Santa Scala. Mais qui arrive au 15e siècle. Alors, vous savez, quand un truc arrive au 15e siècle, en Occident, il y a de très fortes raisons de douter de la légitimité. Après, si la foi, la piété, plutôt que la foi des gens qui viennent là et qui grimpent cet escalier à genoux, les aide, tant mieux. Mais à titre personnel, je doute très fort de l'authenticité d'un escalier. Très fort que l'on ait retrouvé au 15e siècle un escalier, vu le bazar que ça a été à Jérusalem pendant 5 siècles avec l'ampleur des destructions qu'il y a eu avant. Vous voyez, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que je le rapporte, parce que on se doit dire, ça doit bien exister quand même. Parce que Pilate, il a bien dû avoir un escalier de son tribunal. Et bien, du coup, je le rapporte. Et c'est comme ça que vous avez toute une chapelle à Rome, qui est la chapelle des reliques. Juste derrière Saint-Jean de Latran. Mais, encore une fois, ça, tous les souverains font quelque chose de ce genre-là, en fait. Alors, forcément, et je voudrais du coup rentrer là-dedans, si je rentre dans ce système-là, d'avoir une foison des reliques, prolifération des reliques, je cherche des reliques partout, ben c'est la porte ouverte aux abus. C'est quand même assez évident. Alors, ne faites pas des médiévaux des gens crédules. Le Moyen-Âge est un âge qui est profondément rationnel. Infiniment plus rationnel que nous, en fait. Sans nous, nous sommes vraiment les héritiers de Guillaume d'Ockham. Alors qu'en fait, que les médiévaux, ben, les sommes médiévales, que ce soit Saint-Thomas d'Aquin, que ce soit Saint-Bonaventure et tous les autres, sont des monuments rationnels absolument extraordinaires. Donc en fait, ce ne sont pas des gens crédules. Vous voyez, quand j'en viens à me poser la question de savoir si je peux prouver l'existence de Dieu, et que j'écris 25 pages sur le sujet, c'est que je suis rationnel. C'est notre âge qui n'est pas rationnel, en fait. Enfin, je vous invite à réfléchir à cela, ça déborde mon cours, mais notre époque contemporaine, sous prétexte, n'arrête pas, à chaque fois qu'elle affirme qu'elle est rationnelle, en fait, ne l'est pas du tout, elle est complètement irrationnelle. Et bien des débats actuels, en fait, sont complètement irrationnels et ne s'appuient pas du tout sur des arguments rationnels. Alors que le Moyen-Âge, lui, vraiment s'appuie là-dessus, en fait, de manière beaucoup plus forte que ce qu'on imagine, alors qu'on croit souvent que c'est un âge superstitieux. Alors, comme c'est un âge rationnel, ça veut dire que c'est aussi un moment où on se pose des questions face aux abus. Ça veut dire que les abus, en fait, sont bien documentés dans les textes médiévaux. Alors, j'en ai pris un parmi d'autres. Je refais, alors, je respecte pas beaucoup la chronologie ce soir, mais parce que comme on est dans du temps long, je voudrais juste faire les choses de manière thématique, mais Raoul Glaber. Raoul Glaber, on est autour de l'an 1000. Donc, Raoul Glaber, en fait, c'est de sa faute si tout le monde croit que tout le monde avait peur de l'an 1000. Qu'il a vécu de 1985 à 1047. Alors oui, je vais quand même d'abord répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des arrière-pensées politiques faire de la France la championne de la chrétienté médiévale? Oui et non. Mais encore une fois, faites attention que les arguments ne s'excluent pas, en fait. Quand je vous dis oui et non, ça veut dire que il y a manifestement une concurrence des souverains médiévaux pour savoir qui aura la meilleure relique ou le plus de reliques. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Donc, cette concurrence, vous la retrouvez après le XVIIIe siècle, sur qui aura le plus beau château, qui aura le plus beau musée. Donc, c'est une concurrence entre dynasties. Là-dessus, je suis d'accord. Est-ce que c'est de dire le champion de la chrétienté médiévale? Je suis pas sûr de cela parce que il n'y a pas tellement la perspective chez les médiévaux de dire je suis un meilleur chrétien que l'autre. Ça, c'est un débat qui est né de la réforme. Ce sont les protestants qui ont empoisonné, en fait, cette affaire-là en disant qu'il fallait qu'on se montre meilleur chrétien que les autres. Et tout le débat entre réformés et catholiques se situe là-dessus. Enfin, je puis me tromper, hein, mais je ne crois pas qu'au Moyen Âge, il y ait cette idée-là. En fait, même l'idée de la France très chrétienne, c'est un truc qui n'existe pas au Moyen Âge. Ça, c'est une invention du 19e siècle, la France très chrétienne. Bon, mais ça, c'est peut-être qu'un jour je le raconterai, mais c'est un autre sujet. Là, il s'agit plutôt de dire que le pays, le souverain chrétien a chez lui des marques de sa chrétienté, de son christianisme. Et que du coup, il a cette protection. Je mettrais plutôt ça comme ça. Sachant que les rites, en fait, là, dire ça comme ça. Ça se voit par exemple dans les rites de couronnement, où les rites de couronnement des rois de France avaient un déficit. Oui, mais ça, j'y viens. Pour les bienfaits concrets, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. J'y arrive. Pour les déficits. En fait, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave.
Pardon, c'est moi qui en suis la cause.
Non, mais c'est pas grave.
Désolé, désolé.
Ne vous inquiétez pas. C'est que vous savez, le problème des écrans, c'est qu'on est toujours happé par ce qui est écrit. C'est le problème de l'écran. Mais c'est pas grave. Non, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est comme ça. Mais en fait, moi, je voulais en venir là, sur cette affaire-là. Donc, je reviens à mon Raoul Glaber, 985-1045. Alors, Raoul Glaber, c'est un bonhomme qui est un peu, qui est pas vraiment en odeur de sainteté. Hein. À savoir qu'il a Et moine girovague. Déjà, ça, c'est pas terrible. Je veux dire qu'il a arrêté de changer de maison en permanence parce qu'il se fâche avec tout le monde. C'est quand même quelqu'un qui est pas très stable. Il finit par trouver la stabilité à Cluny. Et il écrit une chronique. Donc, il vit essentiellement du côté de Sens, puis de Dijon. Donc, c'est comme ça qu'on connaît un peu les choses de cette affaire-là. Alors, je vais lire le premier texte. Je vous ai mis deux textes. Le premier, qui est celui qui se passe à Sens. En 1008, de l'incarnation de notre Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand le monde entier eut donc, comme nous l'avons déjà dit sur le texte 8, avait revêtu la robe blanche, en renouvelant les basiliques des églises quelque temps après, dans l'année 1008 de l'incarnation de notre Sauveur, grâce à diverses révélations et à des indices certains, on parvint à trouver des reliques saintes depuis longtemps cachées à tous les yeux. Les saints eux-mêmes vinrent par ordre de Dieu réclamer les honneurs d'une résurrection sur terre. Et apparurent au regard des fidèles, dont ils remplirent l'âme d'une foule de consolations. S'il vous faut rappeler la découverte des reliques de Saint-Étienne, c'est exactement ça, hein? Le saint qui réclame de revenir ou d'être découvert. Parce que forcément, quand moi j'ai perdu les corps, le seul moyen, c'est soit de faire un travail minutieux d'historien, et je n'ai pas les moyens de le faire, soit d'avoir une intervention un peu merveilleuse. On continue. On sait. Enfin, j'aime bien quand ça commence comme ça, parce qu'en général, on sait que, moi, ça me donne un truc que j'ignore. Enfin bon. On sait que ces révélations commencèrent à Sens, ville des Gaules, dans l'église de Saint-Étienne martyr. L'archevêque, pardon, Lethéric, qui y présidait, fit des découvertes vraiment admirables en fait d'antiquité sacrée. Et même, entre plusieurs autres objets qui étaient restés ignorés, il paraît qu'il trouva un fragment de la Verge de Moïse. À cette nouvelle, tous les fidèles accoururent, non seulement des provinces gauloises, mais même de toute l'Italie et des régions d'outre-mer. Alors, vous voyez, extraordinaire, une relique de Moïse, comme si c'était possible. Vous voyez, la Bible nous dit, personne ne sait où est son tombeau. Les fidèles accoururent, non seulement des provinces gauloises, mais même de toute l'Italie et des régions d'outre-mer. Donc, ça veut dire ça, que les nouvelles circulent, on apprend qu'on a découvert des reliques de saints, donc tout le monde débarque. Forcément, il y a une dimension économique du pèlerinage. Forcément, vous pouvez avoir des gens peu scrupuleux qui chercheront à en tirer bénéfice, c'est évident. Mais bon, la réalité humaine est mélangée. Et la question, c'est toujours de savoir, est-ce que j'ai le droit de jeter le bébé en même temps que l'eau ? Alors, en général, non. Mais bon, c'est toujours le problème. Un grand nombre de malades furent guéris par l'intervention des saints et revinrent de ce pèlerinage en pleine santé. Donc ça, la guérison atteste l'authenticité de la relique. C'est ça le fonctionnement. Vous voyez, j'ai un songe, quelque chose, un événement merveilleux. Je découvre la relique. L'archevêque luthérique, c'est l'autorité ecclésiastique qui authentifie les choses. Et ensuite, j'ai un miracle qui permet de dire, eh ben, Dieu est vraiment présent. Très logique. Et c'est là, pour notre ami Jean-Louis. C'est une chose malheureusement trop commune que de voir les hommes, entraînés par la cupidité, se faire un instrument de ruine de ce qui devait d'abord servir à leur avantage. À peine cette ville devenue, pour ainsi dire, le rendez-vous des peuples eut-elle acquis une opulence qu'elle devait à la piété des fidèles, que ces ingrats citoyens en conçurent un orgueil extrême. Alors, si vous lisez entre les lignes, opulence. Bon. Sens, c'est quand même la capitale ecclésiastique des Gaules, hein, à l'époque. C'est pas Paris. Lyon, c'est Sens. Donc c'est pas non plus une petite ville. Bon, en fait, si vous voulez savoir la taille de Sens au Moyen-Âge, il suffit d'aller à Sens aujourd'hui, ça n'a absolument pas bougé. C'est le centre de Sens, c'est la taille de la ville au Moyen-Âge. Donc c'est pas une petite ville. C'est une ville de foire, c'est une ville commerçante. Mais là, ce qui nous explique, c'est que le pèlerinage aux reliques retrouvées par l'archevêque Luthéric, alors moi, je me demande comment est-ce qu'on a trouvé dans les bas-fonds de la cathédrale de Sens toutes ces reliques-là dont on ignorait l'existence. Ça, je me pose la question. Mais ce n'est pas grave. Il nous dit, bah, ça a créé l'opulence. Bah oui, parce que forcément, qui dit pèlerin dit hôtellerie, dit restauration, dit marchand de souvenirs. Et du coup, vous avez tout un commerce qui se fait autour de ça. Il suffit de regarder les villes de pèlerinage qui existent encore aujourd'hui. C'est sûr. Y compris dans tout ce qu'il y a de mauvais goût, mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai également de Rome. Qu'elle devait à la piété des fidèles, et ses ingrats citoyens ont conçu un orgueil extrême. Donc, Raoul Glavert est assez critique, en fait, en disant que les habitants de Sens n'ont pas été, je ne sais pas comment on les appelle, ceux-là, n'ont pas été capables, en fait, de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. N'ont pas été capables de saisir le bienfait temporel comme occasion de conversion ou d'une vie spirituelle plus forte, vous voyez. Ils y ont d'abord vu leur intérêt économique et financier. Avec du coup, c'est ce que ça veut dire. Si je m'enrichis, eh ben, je me construis des belles maisons. Voilà. C'est sûr. Je vous ai mis un deuxième texte de Raoul Glaber. Et je terminerai par là, sur la question des abus, parce que les abus, c'est du coup ce commerce, mais qui est réel. Mais forcément, si vous réalisez qu'il y a une possibilité de gain, vous avez tout intérêt à inventer une fausse relique si vous n'êtes pas très scrupuleux ou si votre foi laisse à désirer. Mais bon, ça montre bien qu'il n'y a aucune époque où la foi est unanimement partagée. Hein. Parce que l'histoire qu'on va lire, c'est très clairement une histoire de quelqu'un qui est juste à la fois sans scrupule et en même temps qui manque complètement de foi. Et c'est là qu'on va voir un peu les choses. Alors, qu'est-ce que raconte Raoul Glaber dans ce passage-là ? Je suis au texte 9, donc c'est un peu plus loin dans les reliques, dans les chroniques, pardon. Il y avait alors, parmi le peuple, un magicien des plus habiles, dont on ignorait pourtant le nom et le pays. Parce que dans les différents lieux où il se réfugiait, pour éviter d'être reconnu, il prenait des noms supposés et cachait avec soin sa patrie. Donc ça commence bien, on a déjà l'imposteur. Parce que celui qui n'est pas capable de dire d'où il vient, c'est un imposteur. Alors comment est-ce qu'il fait celui-là pour inventer des reliques? C'est extraordinaire. Il allait fouiller en secret dans la tombe des morts. Donc, il y avait quelqu'un qui était enterré. Il enlevait leurs ossements de leurs cendres encore tièdes. Ah! Est-ce que vous savez lire? De leurs cendres encore tièdes. Il y a donc bien quelque chose qui a été brûlé. C'est là que là, l'historien, quand il lit ça, doit se dire, ah, attention. Peut-être que l'incinération existe toujours. Puisque l'incinération n'est pas un obstacle à la résurrection. Donc, il enlève des ossements de leurs cendres encore tièdes, puis il les plaçait dans des urnes qu'il vendait à plusieurs personnes, comme contenant des reliques de saints confesseurs et de martyrs. Voilà, l'absence complète de scrupules. Puisque je ne respecte pas un cadavre, dont on nous dit qu'il est encore, enfin, qu'il vient d'être enterré, en fait. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est important? Parce que ça veut dire que la décomposition n'est pas encore complète. Et pourquoi c'est important? Parce que la conservation d'un corps est un argument pour la sainteté. En tout cas, au Moyen-Âge. Je ne sais plus si, normalement, j'ai dû vous le dire, parce que l'idée, c'est que le corps mort du saint doit sentir bon. Donc, la meilleure preuve qu'il sent bon, c'est quand il n'est pas décomposé. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre un corps fraîchement enterré. Il les plaçait dans des urnes. Ben oui, parce que les reliques, elles sont transportées dans des petites boîtes. Et d'ailleurs, dans le latin de Raoul Glaber, le terme, c'est le terme technique pour les urnes des reliques. Alors, je ne dis pas reliquaire, parce que le reliquaire, c'est quand même l'objet qui met en valeur la relique. Donc, c'est plutôt la petite boîte dans laquelle je transporte mes reliques. Donc, du coup, vous avez un bonhomme qui se déplace avec des petites boîtes et qui dit « Ah, ça, c'est une relique d'un saint confesseur ou d'un saint martyr. » Après avoir fait un grand nombre de dupes dans les Gaules, il se retira dans les Alpes. Donc, il descend vers le sud. Parmi les peuples sauvages qui habitent ordinairement le haut de ces montagnes. Alors, sauvage, il faut comprendre, si vous me permettez l'expression, alors comme je viens des Alpes, j'ai aucun scrupule à le dire, le crétin des Alpes, c'est-à-dire de dire les gens qui ne sont pas très doués, quoi. Un peu crédules, pas capables de réfléchir. Alors, Raoul Glaber, c'est pas, quand on lit les chroniques en entier, c'est pas quelqu'un de très sympathique de manière générale. Hein. Là, il est assez méprisant envers les gens de manière générale, mais c'est pas grave. Là, quittant le nom de Pierre et de Jean qu'il avait pris ailleurs, il se donna celui d'Étienne. Un nom passe-partout. Il alla recueillir encore pendant la nuit, dans les lieux les plus abjects, les ossements de quelques morts obscurs, les plaça dans un vase et prétendit qu'un ange lui avait apparu pour lui révéler les restes de Saint-Just martyr. Personne ne connaît Saint-Just, mais c'est pas grave. Bientôt, le vulgaire grossier et la populace des campagnes ne manquèrent pas d'accourir en foule à cette nouvelle. Donc, on dénonce la crédulité de celui qui croit la première nouvelle qui passe. Enfin, je crois que quand nous parlons de nos modes contemporains, il n'est pas très difficile de dénoncer la même chose. Tout qu'ils accourent, regrettant seulement de n'avoir pas quelques maladies pour en obtenir la guérison. Ah oui, parce que la guérison, ça serait la marque que les reliques sont vraiment des reliques. Du coup, ils amènent des malades, apportent des présents et veillent toute la nuit dans l'attente de quelques miracles soudains. Alors, l'idée, c'est que si les reliques sont des vraies reliques, il va y avoir un miracle. Parce que le miracle est le signe de la puissance de Dieu. Erald Glaber, c'est un moine, fin spirituel. Nous le répétons. Dieu permet quelquefois aux malins esprits, c'est-à-dire aux démons, d'opérer des prodiges pour tenter les hommes en punition de leurs péchés. Donc, qu'est-ce que dit Raoul? Alors ça, c'est quelque chose de profondément rationnel. Raoul Glaber dit, le miracle n'est pas la preuve de la sainteté des reliques. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, il peut être la preuve des reliques, de la sainteté des reliques, mais il peut aussi se faire que ce ne soit pas le cas. dont vous ne pourrez pas prouver l'authenticité d'une relique à partir d'un miracle. Profondément rationnel. Puisqu'en cette occasion, beaucoup de personnes mal conformées eurent les membres redressés. Donc, c'est des gens qui avaient des pieds tordus, des bras tordus, enfin, ce qui était des problèmes assez fréquents en raison des accidents de naissance, en fait. Du coup, lorsque l'accouchement se présente mal, eh bien, si la sage-femme est un petit peu brutale, vous allez retrouver quelqu'un avec des vraies déformations physiques à vie. Donc, il y a des gens qui sont guéris. Et du coup, ces gens-là suspendent en témoignage de leur guérison des figures de toute espèce. Donc ça, c'est un... De quoi s'agit-il ? Eh bien, si j'ai été guéri, je crois, par le martyr de Saint-Just, ou les reliques de Saint-Just martyr, qu'est-ce que je fais ? En remerciement, je vais déposer une petite figure qui va représenter de quelle manière j'ai été guéri. C'est ce que s'appelle un ex voto. C'est des choses, alors... En France, ça se voit pas trop parce qu'on n'en a pas, en fait. On est des gens bavards, donc on a des ex-voto bavards, on a juste des plaques. Et alors, vous voyez, en Italie, je suis allé à un sanctuaire italien, en Sicile exactement, où là, vous aviez tout un tas d'ex-voto. Et là, effectivement, alors, parfois, c'était la paire de lunettes pour les gens qui avaient été guéris de leur problème de vue, mais parfois c'était une prothèse de hanche pour celui qui avait été guéri de ses problèmes de hanche, mais des fois c'était carrément un plâtre de, enfin un bras, un moulage de bras ou des choses comme ça, pour dire ça passait exactement de ça dont il s'agit ici. Bon. Raoul Glaber continue en égratignant les autorités ecclésiastiques. Il est vrai que les prélats de la Maurienne, donc l'évêque de Chambéry, l'évêque de Maurienne et l'évêque de Tarentaise, d'Asti, de l'autre côté de la frontière, actuelle en tout cas, et de Grenoble, voyaient toutes ces profanations se commettre dans leur diocèse sans montrer beaucoup d'empressement en cette affaire. Donc là, vous avez des évêques qui ne sont pas prudents. Ou plutôt, ils ne s'occupaient dans leur conciliabule que des moyens de gagner l'argent du peuple en accréditant eux-mêmes cette imposture. Bon, donc Raoul Glaber n'est pas tendre pour les ordinaires ecclésiastiques, mais bon, il n'y a pas de raison de douter de ce qu'il raconte. C'est-à-dire de dire, ben, les évêques pas très scrupuleux se disent, ben, quelque part, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Raoul Glaber n'est pas en train de dire que les évêques savent qu'il s'agit d'une supercherie. Faites attention. Ils disent simplement qu'ils ne sont pas scrupuleux, qu'ils n'ont rien vérifié. Donc, ils n'ont pas joué leur rôle d'évêque. Parce que le rôle d'évêque, c'est précisément, comme le nom l'indique en latin, en grec, un rôle de surveillant. Donc, en particulier, de contrôle des dévotions existantes. Pas beaucoup d'empressement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moyen de gagner l'argent. Qu'on retombe sur le business. Donc, cette fois-ci, qui n'est plus celui d'une ville qui tire profit d'un pèlerinage, mais qui est celui d'une autorité ecclésiastique qui peut également bénéficier au niveau financier d'un pèlerinage par les dons qui sont faits, par exemple. D'autant plus que l'Église du Moyen-Âge est un gros propriétaire terrien. Donc, si j'ai plus de gens qui viennent, je vends davantage de grains, etc., etc. Donc, du coup, je répète, on a des gens crédules qui croient à la première nouvelle qui passe. On a un bonhomme sans scrupules qui croit à rien du tout. Et on a des évêques plus sérieux qui se préoccupent d'abord de ce qui rentre dans leur caisse et non pas de vérifier l'authenticité des reliques. Donc tout est donné pour avoir une contestation majeure de reliques en disant bah, si toutes les reliques sont comme ça, ça ne va pas aller très loin. Alors qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qui se passe après ? Cependant, Mainfroi, le plus riche des marquis du pays, c'est le marquis de Suse. Donc Suse, c'est. Enfin, on est vraiment en hauteur, hein, voyez. Si vous connaissez un peu la région Suse, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de Modane. Quand vous êtes à Modane, donc vous allez au bout de la vallée de la Maurienne et vous montez à Modane, vous passez le col du Mont-Cenis et vous descendez de l'autre côté et vous arrivez à Suse. En fait, fit enlever de vivre. Ayant entendu parler de cette découverte, fit enlever de vive force par quelques-uns des siens et transporter dans ses états ce vain simulacre honoré sous le nom d'un vénérable martyr. Alors, on retombe sur ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est-à-dire, je veux bénéficier et du patronage et du pèlerinage auprès d'un saint. Donc, tous les moyens sont bons, donc je vais enlever de vive force le corps de Saint-Just martyr. D'accord ? Donc, vive force, c'est la manière de dire par violence. Hein. Donc, c'est pas. Pas acheté celui-là. Ce seigneur avait fait construire à Suse, place antique, un monastère en l'honneur de Dieu Tout-Puissant, de sa bienheureuse mère Marie toujours vierge, et il avait formé le projet d'y placer ses reliques avec celles de beaucoup d'autres saints quand tous les travaux seraient terminés. Ah ben voilà, le trésor sacré du marquis de Suse. On l'a de manière très claire. L'église étant donc achevée, au jour désigné pour la dédicace, les évêques des provinces voisines s'y rendirent avec l'illustre Guillaume et quelques autres abbés. Alors, si jamais vous vous demandez qui est l'illustre Guillaume, eh bien, sachez qu'il s'agit de l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon. On est venu de loin, quand même. Hein. Dijon jusqu'à Suse pour... Alors après, moi, je ne suis pas compétent dans cette histoire locale. Je veux dire, je ne connais pas les... qui est exactement ce marquis de Suse, quels sont ses liens, parce que géographiquement, on est vers l'an 1000, donc on est dans le royaume de Bourgogne, ou dans la déconfiture du royaume de Bourgogne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en France. Dijon n'est pas en France. Et les Alpes ne sont pas en France. Donc en fait, on est dans un royaume qui est en train de se casser les figures complètement, mais voilà, localement, je ne sais pas plus. On voyait aussi ce magicien fameux, qui avait déjà su s'insinuer dans les bonnes grâces du marquis. Il lui promettait de lui révéler bientôt des reliques infiniment plus précieuses. C'étaient les restes d'autant de saints prétendus dont la vie, les souffrances, les combats, le nom même était autant d'impostures qu'il avait fabriquées. Alors vous voyez que cet imposteur, lui, il ne va pas chercher des reliques du genre le troisième corps de Saint Jean-Baptiste, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça son problème. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il invente des saints, en se disant de toute façon, il y en a bien qui a pu exister que portant ce nom-là, quoi. Toutes les fois, faites attention, que les savants personnages réunis à Suse lui demandaient comment il savait tout cela, il se mettait à débiter des comptes dépourvus de toute vraisemblance. Eh bien voilà, vous avez le rationnel qui arrive. Les savants personnages ne s'en laissent pas compter. Ça veut dire qu'il le demande à ce bonhomme-là de rendre compte de ce qu'il avance. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que du coup, il y a quand même une conscience assez forte de ce qu'on peut raconter n'importe quoi. Ce n'est pas très original. J'en fus témoin moi-même. Ah, Raoul Glaber avait accompagné le respectable abbé, donc Guillaume de Saint-Bénigne, de Dijon. Alors, un ange, disait donc, le sorcier, m'apparaît pendant la nuit, il me raconte et m'enseigne tout ce qu'il sait que je désire apprendre, et il reste constamment près de moi jusqu'à ce que je l'invite à se retirer. Nous lui demandâmes alors s'il avait ses visions tout éveillées ou si c'était dans ses songes. Question typique pour l'examen des visions. C'est la première chose à se demander. Toutes les nuits, reprit-il, l'ange m'emporte de mon lit sans que ma femme s'en aperçoive. Et après de longs entretiens, il me salue, m'embrasse et se retire. Il ne nous fut pas difficile de reconnaître l'imposture à travers toutes ses finesses. Et nous vîmes bien que cet homme angélique n'était autre chose qu'un artisan de fourbe et de mensonge. Donc, pour Raoul Glaber, l'affaire est entendue, mais il dit que ce n'est pas que lui tout seul. C'est les savants qui sont avec lui. C'est évident qu'on a affaire à un imposteur. Ceci dit, les évêques procédèrent avec toutes les cérémonies d'usage à la consécration de l'Église pour laquelle on les avait appelés. Alors, vous voyez qu'on est en train de s'acheminer vers un scandale. Puisque j'ai des fausses reliques mélangées avec des vraies reliques. Les eaux profanes découvertes par ce misérable furent introduites avec les reliques saintes au milieu de la joie tumultueuse de l'un et l'autre peuple qui assistait en foule à cette solennité. On avait choisi pour la dédicace le 17 octobre parce que les partisans des reliques de Saint-Just prétendaient que c'était le jour où ce respectable martyr avait souffert la mort à Beauvais dans les Gaules. Toulon a rapporté sa tarte à Auxerre, sa patrie, qui la conserve encore. Invérifiable. Vous êtes à Suse, on vous explique que vous avez un martyr. Il s'appelle Juste à Beauvais. Bon, Juste, bon, Justus. Qui venait, qui était originaire d'Auxerre. Et que du coup, sa tête était à Auxerre. Bon, pourquoi pas? Pour moi, qui connaissais le fond de l'affaire, je traitais ces récits de contes puérils. Et des personnages distingués, initiés comme moi, au secret de ces fables mensongères, partageaient mon opinion. La nuit suivante, quelques moines et d'autres religieux virent dans cette église des fantômes monstrueux des Éthiopiens, avec leurs figures noires, sortir de l'endroit où l'on avait renfermé ses os et s'éloigner ensuite de l'église. Donc, ça, c'est de dire, ah, s'il y a un fantôme qui sort, c'est qu'il y a un démon. Hein. Parce qu'il n'y a pas de fantôme dans les églises, normalement. Du coup, pour Raoul Glaber, c'est évident que le démon vient des eaux profanes rapportées par l'imposteur. Traduction, les miracles qu'il y a eu étaient des vrais miracles, mais n'ont pas été opérés par Dieu. Cependant, les hommes d'un esprit éclairé eurent beau crier à l'abomination et à l'imposture. La populace grossière des campagnes continua d'honorer sous le nom de Saint-Just le protégé du sorcier, qui méritait plutôt le nom d'injuste et persévéra dans son erreur. Alors là, on touche du doigt encore un point important. Vous voyez que les savants présents à Suse ont une opinion qui est claire sur la question. Et ils ne sont pas capables de faire que ces fausses reliques ne soient pas honorées. À la fois en raison de la crédulité d'un peuple, ça c'est très présent, mais ça veut dire, si vous savez lire entre les lignes, que, un, les évêques, en particulier, là c'est l'évêque d'Asti, n'a pas joué son rôle, au sens où il n'a pas voulu écouter ou entendre l'accusation d'imposture, et que deux, le marquis de Suse n'a pas non plus joué son rôle. Et c'est là que vous avez des affaires très mélangées. D'autant plus que ces reliques sont mélangées à des vraies reliques. Ces fausses reliques sont mélangées à des vraies reliques. Alors, vous voyez ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, ce que le témoignage de Raoul Glaber nous montre que si j'ai une église et une société qui fonctionnent correctement, j'arrive à quelque chose qui n'est pas trop mauvais. Mais évidemment que l'appât du gain, la crédulité font que je peux me retrouver avec du grand n'importe quoi. Alors, je prends cet exemple-là qui est neutre au sens où je suppose que la plupart d'entre vous n'avez pas de dévotion envers Saint-Just de Suse. Mais voyez, que le problème, c'est que cette question-là, elle se pose de manière massive, en fait. J'ai préféré ne pas en parler, mais enfin, j'ai quand même deux corps de Sainte-Marie-Madeleine en France. Qu'est-ce que j'en fais? Lequel est le beau? Alors après, les médiévaux se posent la question. J'aurais pu vous raconter cette histoire-là aussi. Je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas le temps, mais voyez, c'est pour vous dire que on diligente des enquêtes pour savoir les choses. Parce que la question, c'est de savoir si c'est plutôt Vézelay ou si c'est plutôt la Sainte-Baume. Bon, en fait, ça a beaucoup plus de chances d'être la Sainte-Baume que Vézelay. Parce qu'on examine les traditions. Mais comment je fais pour examiner une tradition si dans le même temps, la légende ou le merveilleux a part au milieu? C'est ça la difficulté. Et c'est la même chose dès que j'ai des reliques extrêmement prestigieuses. Quand on nous explique que la maison de la Vierge Marie est arrivée par les airs à Lorette en Italie, je veux bien, mais quand même. Surtout qu'elle s'était déjà transportée mystérieusement de Nazareth jusqu'à Éphèse. Ça finit quand même par faire beaucoup, quoi, voyez. Donc c'est là où le problème, c'est que c'est difficile de faire la part des choses. Mais voilà, ce que je voudrais peut-être que vous reteniez cette fin de soirée, c'est que quand même, les médiévaux ne sont pas des gens crédules. Donc, il y a des gens crédules qui existent, enfin, il y en a de tout temps, et il y en a encore aujourd'hui bien, mais que parfois, on essaie de se donner les moyens. Et les moyens qu'on a sont limités, en fait. Parce que les enquêtes, on n'a pas les outils pour faire les enquêtes. Alors, vous voyez la conclusion que je n'ai pas lue. Nous avons donné ici tous ces détails pour que les malades se gardent d'accorder trop légèrement leur vénération et leur confiance aux ruses et aux sortilèges multipliés des démons qui revêtent toutes les formes en ce monde et se concentrent surtout dans les arbres et dans les fontaines. Bon, ça, je ne sais pas très bien pourquoi il y a cette petite remarque sur les arbres et les fontaines, mais voyez, il est important que les gens qui recourent aux reliques se gardent d'accorder trop légèrement leur vénération et leur confiance. Voilà l'appel de Raoul Glaber, qui n'est pas de dire les reliques, ça n'existe pas, qui n'est pas de dire c'est tout faux, mais qui est de dire attention parce que les abus existent et c'est la porte ouverte. Le texte que j'ai sauté tout à l'heure, qui était le texte numéro 6 du sire de Joinville qui raconte la vie de Saint-Louis, c'est exactement la même histoire, en fait. Sauf que ce n'est pas une imposture, c'est juste une confusion. Alors, on va le lire rapidement. C'est le sire de Joinville qui parle. Le prince d'Antioche, que Dieu absolve, nous fit le meilleur accueil et le plus grand honneur qu'il put. Et il nous aurait fait, à moi et à mes chevaliers, de grands dons si nous avions voulu les prendre. Nous ne voulûmes rien prendre, sinon de ces reliques. Donc, pour le sire de Joinville, ce qui est le plus important, c'est les reliques. Dont j'apportais certaines au roi avec les pièces de Camelin que je lui avais achetées. Au sens, juste avant, le sire de Joinville a fait ses courses pour offrir des tissus à la reine. En plus, la reine, c'est Marguerite de Valois. J'envoyais à Madame la Reine 4 pièces de Camelin. Le chevalier qui les porta enveloppées dans un linge blanc. Quand la reine le vit entrer dans la chambre où elle était, elle s'agenouilla devant lui et le chevalier s'agenouilla à son tour devant elle. Et la reine lui dit, « Levez-vous, sire chevalier, vous ne devez pas vous agenouiller, vous qui portez les reliques. » Et le chevalier lui dit, « Dame, ce ne sont pas des reliques, ce sont des pièces de Camelin que Monseigneur vous envoie. » Quand la reine entendit cela, ainsi que ces demoiselles, elles commencèrent à rire. Et la reine dit à mon chevalier, « C'est à votre maître que maudit soit pour lui ce jour, puisqu'il m'a fait agenouiller devant ces pièces de Camelin. » Oh, vous avez compris l'histoire. Les reliques seraient transportées, je vous ai dit, dans un petit coffret. Et bien, la pièce de tissu également. Donc, vous avez un chevalier qui rentre avec une pièce de tissu, qui rentre avec une boîte dans laquelle il y a des pièces de tissu. La reine de France croit qu'il s'agit d'une relique, puisqu'elle sait que le sire de Joinville est allé récupérer des reliques chez le prince d'Antioche. Bon. Donc, elle s'agenouille. Confusion bête. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas l'air plus embêtée que ça, puisque ça l'a fait éclater de rire, mais comme quelqu'un qui se ferait une génuflexion devant un truc qui est complètement faux. C'est plus ça. Et voyez, si la reine a été capable de faire cette confusion, c'est à la fois parce qu'elle se dit, par dévotion, si une relique rentre chez moi, il faut absolument que je m'agenouille tout de suite. Et dans le même temps, elle est capable de reconnaître son erreur. D'accord ? Bon. Alors, du coup, je ne l'ai pas, j'aurais pu peut-être le déployer un peu plus, mais c'est parce que j'ai perdu beaucoup de temps au début à mettre en place le culte des reliques. Là, c'est quelques exemples que je vous donne. En fait, ce sont vraiment des exemples au sens où c'est partout comme ça, en fait. J'ai mes reliques qui font ma prospérité, qui font ma réputation et qui me donnent quand même un bonheur spirituel, il ne faut quand même pas exagérer. Du coup, il y a des abus possibles. Je terminerai ce soir en disant que ces abus sont bien connus des médiévaux. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on les a découverts au XVIe siècle. Non, ils sont bien connus puisqu'ils sont en permanence dénoncés. Pour autant, au XVIe siècle, il y a quelque chose qui bouge, et c'est avec cela que je terminerai la semaine prochaine, parce que ce qui bouge, c'est justement une contestation assez forte des reliques en tant que telles, dans le monde réformé, et à l'inverse, dans le monde catholique, une crispation sur les reliques. Mais peut-être avec quelque chose d'un peu plus fin que ça. Voilà, donc ça, c'est simplement l'annonce pour lundi prochain. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. J'ai dit tout à l'heure par erreur que Saint-Philibert était à Autun. Non, il n'est pas à Autun, il est à Tournus. Bon, enfin, c'est en Bourgogne quand même. Et c'est un peu plus loin encore. Voilà. Bonne soirée à tous.
Merci à vous aussi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Salut Marie.
Jean-Louis. Maria.